Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire d'une décennie au cours de laquelle une petite île italienne, à moins de 200 km de la Tunisie, est devenue le théâtre des paradoxes d'une Europe globalisée et indifférente au malheur de ses voisins de l'autre rive. Lampedusa, c'est le nom de cette île, et c'est le nom d'un phare, horizon pour les migrants qui prennent la mer pour atteindre l'Europe quand ils atteignent, mais c'est aussi, parfois, le nom de leur tombeau. En septembre 2015, après la publication d'une photo d'un enfant syrien d'origine kurde retrouvé mort sur une plage turque, on s'est souvenu qu'on périssait encore en voulant traverser la Méditerranée. Avant Ilan Kurdi, d'autres photos avaient fait la une de nos journaux. Parmi ces souvenirs, enfouis ou vivaces, il y a ces images de corps alignés sur les quais du port de Lampedusa le 3 octobre 2013. À l'époque, ce fut le pire drame en mer de ce siècle commençant. Depuis, d'autres embarcations chaviraient, emportant encore plus de vies. Comment la Méditerranée est-elle devenue le passage le plus meurtrier du monde? D'où viennent ces migrants? Et comment l'Europe et l'Italie accueillent-ils ces migrants ou les rejettent-ils? Notre invité aujourd'hui, Éric Valmire, journaliste à France Inter, chef du service reportage, spécialiste de l'Italie. Il a été le correspondant de France Inter à Rome. Il vient de publier un roman intitulé « Pêcheur d'hommes », titre évocateur qui nous renvoie bien sûr au drame des migrants. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Octobre 2013, en pleine mer entre Tripoli et Lampedusa. Un bateau ivre, rempli de 500 hommes, femmes et enfants, quitte les côtes libyennes avec comme pour seul bagage un peu d'eau, quelques biscuits et un GPS pour une traversée dont ils ne connaissent pas la durée. Parmi eux, il y a une jeune fille de 23 ans. Elle s'appelle Letter Brann. Son odyssée a commencé il y a un peu plus d'un an. Partie d'Érythrée avec sa meilleure amie, Sénaïte, pour échapper au service militaire obligatoire, elle a quitté ce pays de la Corne d'Afrique sans pouvoir dire au revoir à ses parents. À deux, elles ont pris la route vers l'Europe, comme un cinquième de la population de ce petit pays. Pour l'atteindre, elles ont traversé l'Éthiopie, le Soudan, ont passé des jours à travers le Sahara sur des pick-up blindés. Elles ont connu la chaleur, le manque d'eau et parfois les abus de leurs passeurs, exploiteurs de la misère humaine. Après des mois de voyage, elles sont arrivées à Tripoli sans y voir la mer. Enfermées dans des maisons isolées, accompagnées par d'autres candidats à l'exil, elles ont attendu le grand jour. Alors, pour passer le temps, elles parlent avec les autres migrants de leur parcours et de cette vie rêvée qui les attend de l'autre côté. En attendant de prendre la mer, elles se répètent les noms des villes qu'elles doivent atteindre l'une après l'autre. Lampedusa, Ventimiglia, Paris, Sangatte. Au dernier jour du mois de septembre 2013, en pleine nuit, on vient enfin les chercher. Chargées dans des camions réfrigérés comme on charge des marchandises, elles font le tour de la ville, se serrant un peu plus pour laisser une place aux autres migrants que les passeurs collectent. Chacun doit payer entre 1000 et 3000 dollars pour risquer sa vie et espérer atteindre l'Europe, par la mer. Dans une nuit obscure, Letter Brann et Sénaïte s'assoient l'une contre l'autre à bord d'un vieux chalutier. En quittant cette rive, ces deux filles d'Afrique prient leur dieu et la mer de les laisser passer. De l'autre côté, à 160 000 nautiques, l'île de Lampedusa agit comme un aimant. Façonné par les vagues, ce caillou de 20 km de superficie est la première terre européenne. Située entre la Tunisie et la Sicile, l'île porte le nom de la seule ville qui est sur cette île, précisément, où 6000 personnes vivent de la pêche et du tourisme. 6000 Européens en première ligne, à la frontière entre deux mondes, témoins de l'arrivée des vivants et des morts de l'autre rive. Le 3 octobre 2013, au petit matin, les damnés de la terre sont des centaines à s'échouer. Parti la veille avec des amis en bateau pour profiter de la baie de Tabacarra et de son eau turquoise, Charani et Linda, deux Européennes d'Italie, sont réveillées en pleine nuit par des bruits lointains, un peu comme celui d'oiseaux en perdition. Alors elles lèvent l'ancre et prennent la mer. Après quelques minutes, elles voient des points noirs sur l'eau. C'était comme une mer de têtes, se souvient Linda. Un par un, à l'aide de leurs amis, elles récupèrent les naufragés. Ils sont souvent nus, le corps enduit de gasoil. En 2 heures, elles en sortent 47, dont une seule femme. Fuorino était également en mer. Lui aussi était réveillé cette nuit-là. Il raconte.
Je dormais dans une zone s'appelant la Tabacarra. J'attendais l'aube pour commencer à pêcher. Quand, avec des amis, on a cru entendre des hurlements et des voix. À un moment donné, on est entré dans l'eau. Et là, ce qu'on a vu était affreux. De nombreuses personnes, les bras levés, qui hurlaient. En attendant l'arrivée des secours, on a fait monter à bord de notre bateau des gens qui étaient alors épuisés d'avoir nagé. Ça faisait déjà 3 heures qu'ils étaient dans l'eau.
À bord du chalutier, tout est allé très vite. Après 47 heures de traversée, les Terbran et Sénaïte aperçoivent les premières lumières au loin, comme des lucioles. L'Europe est là, à quelques kilomètres seulement. Sans essence pour poursuivre, certains migrants allument les lumières de leur téléphone portable et espèrent ainsi être vus. Les heures passent, mais aucun signe de secours. Alors un homme met le feu à une couverture. Pris de panique, un mouvement de foule fait basculer le bateau. En quelques minutes, l'embarcation rejoint le fond, emportant avec elle ceux qui n'ont pu s'échapper, dont Sénaïte. Les Terbran, elle, a tenu la coque du bateau jusqu'au bout, puis elle a nagé des heures durant, avant qu'un bateau ne la récupère, enfin. Elle est l'une des survivantes de ce naufrage du 3 octobre 2013, aux abords de Lampedusa. Quelques heures plus tard, après les vivants, ce sont les premiers morts que l'on décharge sur le quai, puis qu'on place sur des sacs en plastique. Ils seront 366 à être repêchés ou récupérés sur les plages du Sud. Mais combien sont-ils à avoir été engloutis par la mer, sans laisser de traces depuis ce jour d'octobre 2013, victimes de leurs rêves, pourtant si légitimes? Fuir une dictature, une armée, une famine. Comment Lampedusa est-elle devenue un cimetière pour les migrants et une citadelle pour les Européens?
Je m'appelle Adiam, je viens d'Érythrée, en Afrique. Je suis arrivée en Italie en 2003 par la mer, en barque.
Et pourquoi avez-vous quitté l'Érythrée?
Parce que notre gouvernement était une dictature et il y avait la guerre aussi, alors j'ai fui la guerre. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver en Italie. J'ai dû traverser le Soudan, le désert, la Libye, puis la mer. Quand on est arrivé au large de la Tunisie, il y a eu une tempête. La barque a chaviré. On a crié « à l'aide, à l'aide ». On a brûlé nos t-shirts. C'était la nuit. Un bateau tunisien est arrivé et nous a sauvés. Il nous a donné une grande barque. Par chance, je ne suis pas morte, mais beaucoup d'autres, oui. Mort.
C'est 10 ans avant le naufrage du 3 octobre qu'Adiam est arrivé à Lampedusa. Cette année-là, 8819 migrants ont été arrêtés aux frontières maritimes de l'île. Ces arrivées représentent déjà plus de 60% du total des migrants arrêtés sur le territoire italien. Au début de ce nouveau millénaire, les problèmes liés à l'immigration clandestine constituent en Europe une question prégnante. En Italie, en 2002, les parlementaires votent une nouvelle loi sur l'immigration dite Bossi-Fini, du nom de ses auteurs, Umberto Bossi, un ancien chef de la Ligue du Nord, et Gianfranco Fini, fondateur du parti post-fasciste Alliance Nationale. Cette loi, votée le 4 juin, durcit les conditions d'entrée des immigrés en Italie, limite le séjour dans les centres, exige la prise des empreintes digitales de tous les étrangers non originaires de l'Union européenne, accélère également les procédures d'expulsion et instaure le délit d'immigration clandestine qui interdit aux bateaux de pêche de porter secours aux migrants en détresse. À la suite de ce vote, le centre d'accueil situé à Lampedusa devient un centre de détention, où la durée maximale de séjour peut aller désormais jusqu'à 60 jours. Et chaque mois, on apprend le naufrage d'un bateau, la découverte d'un ou deux dizaines de corps sur une plage du Sud. Le 19 octobre 2003, ce sont 14 personnes qui perdent la vie à quelques kilomètres des côtes italiennes. Année après année, Lampedusa devient une sorte de laboratoire de la politique sur l'immigration dans l'Italie de Berlusconi. En octobre 2004, le gouvernement signe avec les autorités libyennes un accord de surveillance des frontières, avec fourniture de moyens matériels, mise en place de patrouilles mixtes et dispositifs d'expulsion facilités. En 2005, la politique migratoire européenne évolue également vers plus de contrôle. L'Union se munit d'une agence dénommée Frontex, qui coordonne et gère l'action des pays membres sur ses frontières extérieures. Frontex surveille, compte, fiche, décrypte les routes migratoires et devient un soutien logistique aux pays de l'Union. Désormais, à Lampedusa, les bateaux de guerre côtoient les bateaux de pêche. Au petit matin, les migrants sont des dizaines à débarquer sur le quai, une couverture de survie sur le dos avant d'être emmenés en bus vers le camp situé en dehors de la ville. Derrière ces murs, aucun journaliste n'a le droit de pénétrer. Que se passe-t-il à l'ombre des caméras? Pour en savoir plus, en septembre 2006, Fabrizio Gatti, journaliste de l'hebdomadaire L'Espresso, se jette à l'eau à quelques centaines de mètres d'une plage de Lampedusa et se fait passer pour un migrant. Après avoir été secouru par des riverains, il est amené auprès des carabiniers qui l'envoient dans le camp. Après 6 jours enfermé dans ce centre, il est envoyé en Sicile, puis relâché avec comme seule consigne « Vous avez 6 jours pour quitter l'Italie ». Alors que ses compagnons de fortune prennent la route vers le nord, lui rentre à Rome et écrit un article intitulé « Dans l'enfer de Lampedusa », où il décrit les conditions inhumaines, les humiliations et les brimades des gardiens. Il raconte notamment comment certains gardiens contraignent des musulmans mineurs à regarder des images pornographiques, à se dénuder en public. Il pointe également les mauvaises conditions sanitaires, le surpeuplement. Durant son séjour, il n'a reçu aucune aide juridique. Cette année-là, en 2006, le journaliste de France Inter, Eric Valmire, est sur place. Il rencontre Frédérica, une bénévole de Médecins Sans Frontières, qui a accès au centre.
Moi, personnellement, j'aimerais pouvoir avoir du temps pour visiter les gens. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour le faire. Et les choses qui m'ont frappée, c'est les yeux des immigrés. C'est plein de peur. Parce qu'ils sont vraiment ils sont effrayés. Et c'était quand même très frappant de voir des personnes baiser le sol. On dit comme ça? Et j'avais vu ça seulement une autre fois dans ma vie en Israël, il y a 15 ans. Et ça te frappe beaucoup, je trouve.
Malgré le tollé politique, la situation n'évolue pas. Pire, en 2008, le gouvernement de Berlusconi décide de ralentir les transferts et de plonger un peu plus le centre dans une situation d'urgence. En décembre, le gouvernement italien annonce que quiconque arrivera sur l'île de façon illégale sera détenu pour une durée indéterminée et que les demandes d'asile se dérouleront désormais sur place. Alors que le centre est pensé pour accueillir 351 personnes, au début du mois de janvier 2009, on en compte plus de 2000 détenus derrière des barbelés. Dans la rue désormais, les habitants manifestent contre la militarisation de leur île, qu'ils comparent à un Guantanamo des clandestins. Pour certains Lampedusiens, la petite île balnéaire est devenue une prison, comme le raconte cette habitante.
C'est tout un petit village. L'impression bizarre, c'est qu'on croit d'être contrôlé par la police. On ne peut pas aller faire les courses quand on voit la police. Donc, tu as l'impression que la police est là pour te contrôler. Ce n'est pas pour l'immigration, mais c'est pour toi. Parce que c'est trop, en effet. Donc, vraiment, on ne peut pas sortir de la maison quand on voit des polices, des militaires, toujours, toujours. Même l'autre jour, on allait au restaurant et il n'y avait que 2 clients, en fait, nous et la police.
Année après année, à Lampedusa, le passage des migrants laisse des traces. Quelques mots, des vêtements abandonnés sur les plages du sud de l'île et des croix en bois dans le cimetière de la ville qui accueille les corps que la mer a bien voulu faire réapparaître. Il y a les croix blanches avec comme seule indication un numéro, puis celle dont on a retrouvé l'identité. Pour elle, les Lampedusiens offrent des sépultures avec les noms gravés sur du marbre. Dans ce carré des naufragés, les dates, les noms, les catastrophes défilent, plaque après plaque. Sur l'une d'elles, on peut lire « 16 avril 2009, le navire marchandique Pinard, en route vers la Tunisie, se porte au secours d'une embarcation en difficulté. À bord du cargo, on a transféré le corps sans vie d'Esterada, 18 ans, nigériane. » Au cœur de l'île, sur un terrain vague, un autre cimetière voit le jour, celui des épaves de bateaux. Entassés les uns à côté des autres, ils sont les derniers vestiges de ces traversées. Certains sont des vieux chalutiers, d'autres des bateaux de pêche, presque neufs. Tous ont des indications arabes sur la coque. En 2011, sur l'autre rive, la révolte gronde. En 4 semaines, les Tunisiens poussent au départ le président Ben Ali en poste depuis 1987. Puis c'est l'Égypte qui s'embrase. Le 11 février 2011, le président Moubarak annonce qu'il s'en va. En Libye, malgré les mobilisations, le dictateur Kadhafi refuse de quitter le pays. Il faudra attendre l'épreuve des armes et le début d'une guerre civile pour que le pouvoir cède. Dans ces pays, les passeurs poursuivent leur trafic, envoyant chaque jour un peu plus des migrants à bord de leurs bateaux miteux. Parmi eux, Haitem, jeune Tunisien de 19 ans. En 2011, au lendemain de la révolution, Alexandre Degnaud de France 2 suit son odyssée pour envoyé spécial de Zarzis jusqu'en Italie. Elle est avec lui à bord du bateau qui l'emporte.
Tu vois, après la collision, je suis tombé dans l'eau. J'ai essayé de m'agripper au bateau des gardes nationaux. Mais le capitaine a surgi de nulle part pour me frapper. Et il m'a dit, tu vas rester là, dans la mer. Tu montes pas. Mais moi, je me suis accroché et j'ai réussi à monter quand même.
Ça ne marche pas cette fois-ci. Tu vas recommencer encore ?
Normalement.
Mais si Dieu veut, là ça va marcher.
Après avoir passé quelques jours à Lampedusa, au centre de détention, Haitem arrive en Sicile, passe par l'Italie, puis rejoint la France. Il est l'un des 51 753 migrants recensés qui ont débarqué sur l'île italienne en 2011. Cette année-là, ce nombre représente 82% des migrants recensés dans le pays. Avec des arrivées qui constituent près de 10 fois la population de l'île, Lampedusa devient l'étape numéro 1 des routes migratoires de ces réfugiés qui cherchent à tout prix à rejoindre l'Europe. Lampedusa devient aussi une étape pour les populistes de tout genre qui font de cette île le symbole d'une Europe passoire. Le 14 mars 2011, par exemple, Marine Le Pen, alors en campagne pour la présidentielle, se rend à l'improviste sur les lieux. Accompagnée par Mario Borghezio, député européen du Parti de la Ligue du Nord, elle reste à peine 2 heures sur l'île, le temps de faire le tour des médias français, italiens, allemands.
L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir l'ensemble de ces clandestins. Que les peuples d'Europe sont en situation telle d'appauvrissement que nous ne pouvons pas assumer, en plus d'une immigration légale qui est déjà très importante, je parle évidemment de la France, une immigration clandestine.
Quelques jours plus tard, c'est Silvio Berlusconi, président du Conseil italien, qui fait le déplacement et qui promet le départ des réfugiés vers d'autres structures dissimulées sur la péninsule. Il vient annoncer également le financement d'un plan de communication pour relancer le tourisme dans l'île. Dans les journaux, Lampedusa reste le nom d'une mauvaise conscience européenne, d'une histoire sans fin, celle des naufragés en Méditerranée où l'on apprend la mort de 10, 20, 30 réfugiés, un jour d'été ou d'automne, à quelques kilomètres de nos côtes. Mais comme une vague chasse l'autre, chaque drame fait oublier le précédent. Les naufrages deviennent alors des informations dont on ne donne que la date et le nombre de survivants, comme si on avait accepté que notre Méditerranée soit devenue une fosse commune. Alors que les institutions de l'Union européenne hésitent, attendent, accentuent les contrôles et les expulsions, c'est un homme d'église, le pape François, qui rappelle l'existence de l'île et de tous ses morts en Méditerranée. En juillet 2013, pour son premier voyage, le pape débarque à Lampedusa. Dans son homilie, il demande pardon pour cette globalisation de l'indifférence.
Nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués aux souffrances de l'autre. Cela ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre affaire. Revient la figure de l'innominé de Manzoni. La globalisation de l'indifférence nous rend tous innommés, responsables, sans nom et sans visage.
Quelques semaines plus tard, le 3 octobre 2013, 366 migrants périssent en mer, toujours dans l'indifférence, ou presque.
All that has been wrong, it shows in your reflection. You've fallen out of touch, got lost along the way. And no, it's not enough, but these things, they all get better. And even if it's tough,
Faute de place dans l'église, ils sont des centaines sur le parvis balayé par le vent du nord, venus se recueillir à la mémoire des victimes du naufrage, comme Giovanna.
J'ai mal au cœur, moi. Et c'est pas la première fois. Il y a toujours des immigrants ici, alors des enfants, tout ça, ils sont morts, alors c'est tout, ça va.
Lampedusa est restée ville morte toute la journée, drapeau en berne, écoles et commerces fermés. Max est sénégalais, ça fait 20 ans qu'il habite ici et c'est la première fois qu'il vit un tel drame.
Ceux qui sont venus ici, ce sont nos frères, nos parents, ce sont tous de l'Afrique et nous sommes des Africains. C'est pourquoi nous sommes venus avec les Italiens pour commémorer la situation.
La messe sera suivie d'une procession. Le cortège passera sur le port de pêche où l'on voit quelques drapeaux noirs avec ce mot écrit en blanc, Vergogna, la honte. À Lampedusa, Philippe Leduc, Sandy Dauphin, France Inter.
Ce 4 octobre 2013, à Lampedusa, au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants qui a provoqué la mort de 366 personnes, les Lampedusiens déplorent ces nouvelles victimes qu'ils retrouvent désormais sur les écrans de télé et dont on cache le visage et le nom. D'où viennent-elles? Quand ont-elles pris la route vers l'Europe? D'Érythrée, de Syrie, d'Éthiopie, quelle guerre se cache derrière ces vies? Pourquoi ces hommes, ces femmes, ces enfants ont-ils décidé de tenter cette traversée? Dès l'annonce du drame, l'émotion passe les frontières. Le 4 octobre 2013, le gouvernement italien décrète un jour de deuil national. Le pape François, en déplacement à Assise, accuse de nouveau le monde d'indifférence envers ses réfugiés. Des politiques du pays et de l'Union européenne, dont José Manuel Barroso, viennent saluer la mémoire des morts. Au même moment, à l'intérieur de sa petite mairie, Giusy Nicolini tient le décompte macabre des victimes que la maire lui livre chaque jour. Au lendemain de son élection en 2012, elle avait déjà alerté les autorités de Rome avec une lettre courte et sans appel. « Je suis la nouvelle maire de Lampedusa », écrit-elle. « On m'a affecté 21 cadavres de personnes qui tentaient d'atteindre l'île. Notre cimetière n'a plus de place. Nous allons l'agrandir. Mais dites-moi, quelle superficie doit-il atteindre ?» Un an plus tard, au lendemain du drame, malgré les annonces, Lampedusa retombera selon elle dans sa solitude, seule au milieu de la mer, à secourir ceux que l'Europe refuse d'accueillir.
Lampedusa sera di nuovo lasciata sola domani. La grande solitudine.
Lampedusa sera de nouveau laissée toute seule demain. La grande solitude de Lampedusa, c'est que même après le passage du pape François, on se rend compte que rien ne change dans les lois, les politiques d'accueil, même dans les secours portés à ces réfugiés qui ne sont pas des clandestins, des immigrés légaux. Et ce n'est pas aux forces de police d'aller les récupérer dans l'eau, vivants ou morts. Il devrait y avoir des couloirs humanitaires.
Le naufrage du 3 octobre 2013 est à l'époque le drame le plus important de ce siècle qui commence. Alors, le gouvernement italien lance une première opération de surveillance et de secours qui porte le nom de Mare Nostrum. Sur les mers, désormais, des bâtiments militaires italiens partent au secours des migrants jusqu'aux côtes libyennes. Alors que chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à être ramenés sur terre sains et saufs, c'est à l'intérieur du centre d'accueil que les critiques se portent de nouveau. Le 16 décembre 2013, le journal de la RAI 2 diffuse un reportage réalisé à l'aide d'images du téléphone portable de Khaled, un réfugié syrien qui a filmé l'intérieur du camp. On y voit les migrants, hommes, enfants, attendre nus dans le froid avant d'être aspergés de produits désinfectants. Les membres du centre les traitent sans considération, jetant leurs affaires à terre. L'effroi est grand sur l'île, comme en Europe. Cécile Malmström, commissaire européenne aux affaires intérieures, déclare sur Twitter l'ouverture d'une enquête sur ces traitements qu'elle juge épouvantables. Et le gouvernement italien suspend les dirigeants du centre et il annonce l'évacuation du camp pour une remise à niveau ainsi qu'une révision des lois dites Fini-Bossi. Sur le plan des sauvetages, après un an d'existence et 150 000 personnes sauvées, l'opération Mare Nostrum est arrêtée. À partir du 1er novembre 2014, l'Europe prend la relève avec l'opération Triton. Malgré une coordination européenne sous la houlette de Frontex, le budget de l'opération passe de 9 millions par mois à 3 millions. À l'inverse de l'initiative italienne, Triton n'est pas une opération de sauvetage, non, mais de surveillance sur l'ensemble des eaux territoriales européennes. Quelques mois plus tard, le 19 avril 2015, un nouveau drame fait la une des médias du monde.
France Inter. Nouvelle tragédie en Méditerranée selon un scénario qui se répète. Un chalutier de 20 mètres de long avec à son bord plus de 700 migrants, alors qu'il ne pouvait accueillir qu'une centaine de passagers, a fait naufrage à 110 km des côtes libyennes. Dans la nuit, les migrants lancent un appel de détresse suite à des difficultés de navigation. Les gardes-côtes italiens déroutent sur la zone un navire marchand portugais. En le voyant arriver, les migrants se portent tous du même côté de l'embarcation, la faisant chavirer. 28 personnes ont été secourues pour l'instant et d'autres navires ont été dépêchés sur place pour trouver des survivants. Si le nombre de 700 victimes était avéré, cela porterait le bilan des morts en Méditerranée à 1600 depuis le début de l'année, alors qu'il était de 47 victimes à la même époque en 2014. Hausse également du nombre de migrants à accueillir pour l'Italie depuis le début du mois d'avril. 15 000 nouvelles personnes, dont de nombreux enfants, sont arrivées dans la péninsule. Le HCR demande désormais la mise en place d'un Mare Nostrum européen.
4 jours plus tard, le Conseil européen annonce que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines en mer. Pour cela, elle lance une opération militaire pour lutter contre les passeurs et les trafiquants humains. Encore une fois, son objectif n'est pas le sauvetage, mais la surveillance et la lutte contre le trafic. Après chaque drame, certes, Bruxelles s'émeut, puis hésite, tâtonne, modifie les lois, espère toujours faire de la Méditerranée un mur étanche. Alors dès la fin de l'année 2014, ce sont les ONG qui prennent le relais des sauvetages en mer, comme autant des boat people vietnamiens. Le drame est désormais à quelques centaines de kilomètres de nos plages. Des médecins et des bénévoles partent en mer secourir ces migrants. À Lampedusa, les habitants poursuivent leur vie d'accueil et de deuil. Parmi eux, ce médecin filmé dans le bouleversant documentaire intitulé « Fu Okohamare » par-delà Lampedusa de Gianfranco Rossi, ours d'or au dernier festival de Berlin et qui sortira en septembre 2016. Devant un écran d'ordinateur, il montre les photos d'un bateau de réfugiés puis d'un adolescent allongé, rachitique. Il raconte les traces de la traversée sur les corps meurtris, les brûlures dues au mélange d'eau et d'essence, la déshydratation et l'étouffement. Avec retenue, il parle des vivants et se souvient des morts de Lampedusa.
Tout homme a le devoir, s'il est un être humain, de secourir ces personnes. Quand nous y parvenons, nous en sommes vraiment heureux. Heureux d'avoir pu les aider. C'est parfois impossible, hélas. Et je dois parfois assister à des choses épouvantables, des morts, des enfants. Quand cela arrive, je suis obligé de le faire. Ce que je déteste le plus, l'inspection de cadavres. J'en ai fait beaucoup, sans doute trop. Beaucoup d'amis ou de collègues me disent « Tu en as tellement vu ». Tu es habitué. C'est faux. Comment peut-on s'habituer à voir des enfants morts, des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché sur des canots en perdition, l'enfant encore attaché par le cordon ombilical. Tout ça te laisse une colère, un vide dans l'estomac, un trou. Tu penses, tu rêves d'eux, je fais des cauchemars où je revis souvent. Souvent.
Aujourd'hui encore, de l'autre côté de la rive, des migrants prennent la route de l'Europe, quittent leur pays, traversent des déserts, attendent dans des maisons des jours entiers, puis tentent leur chance par la mer. Combien survivront à la prochaine traversée? Combien de bateaux coulent sans même qu'on ne le sache?
How many people?
150.
Your position.
There is in danger. Please, you beg, you please don't save us.
Your position.
In the name of God.
Your position. Hello. Hello.
En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcés de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcés de se réfugier.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants. Notre invité, Éric Velmire. Bonjour, Éric.
Bonjour, Fabrice.
Et journaliste à France Inter, chef du service reportage, spécialiste de l'Italie et amoureux de ce pays. Nous sommes au moins deux, dans ce cas-là. Vous avez été heureux homme, le correspondant de France Inter à Rome. Et vous venez de publier un roman intitulé « Pêcheur d'hommes » chez Robert Laffont. Le cadre de ce livre est donc le drame des migrants dont l'île de Lampedusa est devenue à la fois le symbole et la réalité, à moins que, et vous allez me le dire, ce livre soit d'abord Lampedusa, comme une sorte de déclaration d'amour à cet endroit, et la transformation de Lampedusa à travers le drame des migrants. C'est plutôt de ce point de vue-là qu'il faut le prendre?
Oui, il faut changer totalement l'approche. Si je vous demande, enfin vous connaissez l'Italie, donc vous êtes la mauvaise personne pour ça, mais si je vous demande de me décrire Lampedusa, vous seriez bien mal, vous seriez bien en peine de le faire en fait. Parce que Lampedusa, c'est un nom très médiatique, on sait que les migrants viennent y échouer, meurent, sont débarqués là, mais que sait-on vraiment de cette île? Est-elle grande? Y a-t-il des villes à l'intérieur? Un village? On ne sait rien de Lampedusa. Moi, j'ai voulu parler de cette insularité que j'ai appris à connaître en maintenant près de 15 ans, puisque entre mes premiers pas de reporter à Lampedusa au début de la vague d'immigration et aujourd'hui, j'ai eu le temps de la connaître, 20 km². à vélo, de la pointe nord au sud, vous mettez 14 minutes.
C'est vraiment tout petit.
C'est minuscule, 5000 habitants sur place. Et moi, j'ai côtoyé ces habitants en couvrant le drame des migrants régulièrement. Et j'ai eu envie d'inverser l'approche. On ne parle que de Lampedusa à travers les migrants. Moi, j'ai voulu parler de Lampedusa à travers ses habitants. Et de parler de cette insularité si particulière, parce qu'il y a déjà tous les mots, si on peut appeler ça des mots, mais enfin les problèmes liés à l'insularité, comment se réaliser dans une île minuscule avec en toile de fond le drame des migrants, c'est-à-dire tous les principes de l'insularité, avec en plus ce drame des migrants qui est des plus sensibles, parce que tout de suite, la question que l'on peut avoir aujourd'hui face aux réfugiés qui arrivent donc maintenant chez nous en France, puisque on est confronté maintenant à ce phénomène depuis maintenant quelques mois, quelques années, il est encore plus criant à Lampedusa depuis 12 jours, parce que là, il n'est pas question de savoir si on va accueillir ou pas. Là, c'est à vos portes, en fait. C'est devant chez vous. En France, on peut avoir les idées larges et se dire, ah, il faut avoir une politique d'accueil et tout ça, mais si on vous dit, d'accord, mais alors vous accueillez des réfugiés chez vous, on va y réfléchir à deux fois, même si on a les idées larges et qu'on veut se montrer favorable à l'accueil. Là-bas, on n'a pas le temps de se poser la question. On est tout de suite confronté à un sentiment d'urgence. Des gens viennent d'échouer sur la plage en face de votre maison. Que faites-vous? Vous leur ouvrez la porte ou vous leur dites passez votre chemin? Et c'est toute cette difficulté-là qui frappe des gens qui se sentent abandonnés par les autorités italiennes et européennes depuis maintenant, j'allais dire 25 ans, puisque ce drame a commencé en 92. Et en 92, c'était les premières vagues de réfugiés tunisiens, les premiers Tunisiens à arriver à Lampedusa en 1992. Et j'ai donc prétexter la naissance d'un garçon à Lampedusa en 92 et accompagner son développement. Comment on se réalise sur une île? Alors sur une île, tout de suite, surtout sur 20 km carrés, quand on est gamin et adolescent, on grandit dans quel univers, avec quelle culture, et comment on se réalise? Ce sont ces questions-là qui m'ont véritablement intéressé.
Alors vous avez choisi la voie du roman, ce qui arrive d'ailleurs, quoi. On peut avoir une approche documentaire, de journaliste, mais passer par le roman, souvent pour plus de liberté d'ailleurs, liberté narrative. Pourquoi êtes-vous passé par le roman, vous?
Oui, pour les émotions aussi.
Oui.
Parce que faire un essai sur l'histoire de Lampedusa, en soi, je suis pas certain que ce soit... Enfin, moi, ça m'intéressait pas. Faire un livre de journaliste ne m'intéressait pas. Je préférais raconter l'histoire de cette île, mais à travers la chair des émotions. C'est-à-dire, encore une fois, on est un gamin qui grandit dans cette île. Ce que je raconte là, ce sont... J'ai beaucoup aimé, si j'ouvre une parenthèse, ce que disait Éric Vuillard après avoir eu son Goncourt, la vérité a une structure fictionnelle. Je trouvais ça très intéressant, parce que même en faisant un livre dit de journaliste ou un essai sur l'histoire de Lampedusa, on pourra jamais véritablement approcher la vérité, mais parce qu'il faudra toujours tout cimenter, tout expliquer, et ce sera toujours compliqué. Je trouve qu'avec la fiction, on peut, avec du ressenti, approcher une somme de nuances, de complexité et d'émotions qui nous fait approcher une réalité du bout des doigts, parce que on va pouvoir explorer toutes les sommes de nuances qui sont indispensables à la compréhension d'une réalité de terrain. Et si on parle, parce que c'est un roman certes, mais tout ce qui est en toile de fond, c'est-à-dire les migrants et tout ce qui se passe à Lampedusa est réel. C'est-à-dire que de 92 à 2017, les naufrages, les personnages de l'île qui sont par exemple le maire, le médecin, tout ça existe. Mais je me suis mis dans la peau de la population. C'est-à-dire, on grandit avec les éléments naturels, on grandit avec la mer, la culture de la nature, on grandit avec la mafia qui essaye de prospérer sur l'île, on grandit avec toujours cette question partir ou rester. Est-ce qu'il faut être pro ou anti-migrant? Et avec l'île qui se scinde en d'eux, comme partout, c'est-à-dire que doit-on faire par rapport aux migrants, et le ras-le-bol aussi de devoir se déterminer par rapport aux migrants. Et je trouvais que, à travers un roman et une fiction, ces questions-là pouvaient être abordées avec beaucoup plus de sensibilité.
Alors justement, cette phrase résume cette sensibilité. Le métier du père de Niccolo, donc le personnage du roman, c'est d'attraper des poissons, pas de pêcher des hommes, ce qui le rend fou. Je crois que tout est un peu dit dans cette phrase-là, non?
Ben oui, parce que il faut pas oublier qu'au tout début, ce sont les pêcheurs de Lampedusa qui sont en première ligne. C'est eux qui pêchent les cadavres. Et en fait, ils ramassent, je suis désolé du terme, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les Africains qui coulent essaient de s'agripper aux mailles des grands filets qu'on lance à la mer pour pêcher le thon. Mmh. Et en fait, en s'agrippant là-dessus, ils meurent ainsi. Et les pêcheurs, en remontant les filets, trouvent les cadavres d'Africains au milieu des thons. Voilà. Et ça, ils l'ont connu. Des femmes avec un fœtus explosé, et tout ça, elles ramènent sur le pont. Et effectivement, des gens sont devenus fous. Enfin, l'histoire du père, le père n'existe pas réellement, sauf qu'il existe. Il existe quand même, parce que des exemples comme ça...
Oui, symboliquement, il représente plusieurs personnes qui ont vécu ça.
Et c'est là tout l'objet du roman. Et effectivement, au fur et à mesure que les autorités ont essayé de quadriller les choses, c'est-à-dire que maintenant, plus personne ne débarque à Lampedusa. Mmh. Les gens sont récupérés à 100 km des côtes et amenés à Lampedusa parce qu'il y a un centre de rétention où on va pouvoir maintenant identifier les gens. Et donc, la population n'a plus aucun contact direct aujourd'hui avec les migrants. Mais il n'empêche. Il y a une sorte de mélancolie qui s'empare de tous les habitants de Lampedusa. Parce que quand on sait qu'à 50 km au large se jouent des naufrages, des gens qui pataugent, des gens qui risquent leur vie, qui coulent quand même, j'allais dire la santé mentale des habitants de Lampedusa, personne ne pense à la préserver. Parce qu'elle est touchée. Elle est forcément touchée. Quand vous passez votre temps à sauver des gens ou être confronté à des naufrages ou à imaginer que vous êtes assimilé à des naufrages, mais c'est très compliqué.
On peut le comprendre, effectivement. Et je regarde une carte en même temps que je vous parle. C'est indispensable. Lampedusa est très au sud, même au sud de Malte. C'est à l'est de la Tunisie, mais de la partie sud de la Tunisie. C'est plus au sud que Malte et c'est bien plus au sud que la Sicile. C'est donc le premier îlot, en fait, la première bande de terre qu'on croise en partant de la Tunisie, hein, c'est bien ça.
On dit même que ça peut être la première île africaine, mais c'est aussi la porte de l'Europe.
Ouais.
Symboliquement, c'est la porte de l'Europe, et c'est pour ça que beaucoup d'Africains en remontant disent qu'ils veulent aller à Lampedusa, parce que c'est la porte de l'Europe. Et vous savez que Lampedusa ne figure pas aussi sur les cartes d'Italie de beaucoup de manuels scolaires italiens. Ça s'arrête à la Sicile. Lampedusa, c'est comme si elle était rognée. Et parce que l'histoire de Lampedusa n'est qu'une histoire de rochers sur lequel personne ne vivait à part quelques ermites pendant très longtemps, et que son histoire ne s'est constituée que ces 50 dernières années, parce que il ne faut pas l'oublier, Lampedusa, et je vous invite à aller sur Google, enfin pour voir les images, Google Images ou autre, Lampedusa a les plus belles plages, mais les plus belles plages de la Méditerranée. Une eau cristalline incroyable, des fonds calcaires, des spots de plongée hallucinants, et c'est une île d'une beauté qui est paradisiaque.
Ouais, c'est le mot. Alors, il est dit, notamment en quatrième de couverture de votre livre, l'une des plus grandes hontes, alors Lampedusa, l'une des plus grandes hontes contemporaines. Alors, qui porte la honte? Ce n'est pas les gens de Lampedusa, bien sûr, encore moins les migrants. Qui porte cette honte?
Mais la honte, c'est un mot qui a d'abord été employé par le pape, c'est un mot qui a été employé par la presse internationale et la presse italienne qui parlait de Lampedusa comme honte. Honte, pourquoi? On le devine assez aisément, parce que des gens mouraient à quelques miles au large de Lampedusa et que l'Europe n'était pas capable de leur venir en aide ou de venir les secourir. Mais les habitants de Lampedusa ont honte qu'on les voit et qu'on les décrive avec ce mot « honte ». Ils ont tellement honte de ça qu'ils ont honte aussi des journalistes. Et ils disent « honte à vous, les journalistes ». Il y a aussi dans ce roman une autocritique de notre profession, mais presque quand même, où on voit à chaque fois qu'il y a un naufrage important, des reporters avec des caméras arrivés le matin en courant, qu'est-ce qui les intéresse? Vite faire un son du maire, un son d'une ONG. Si on peut faire un migrant, c'est super, ou un secouriste, et on repart le soir en courant sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement sur cette île. Et ça, les habitants, ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils sont à la fois soit désignés racistes quand ils veulent pas, quand ils en ont marre de voir toutes ces histoires de migrants et que, au bout d'un moment, ça les déborde et qu'ils préfèrent s'en détourner. Soit, on veut leur donner le prix Nobel de la paix parce que ils sont incroyablement accueillants, débordants de générosité. Ce n'est ni l'un ni l'autre.
C'est-à-dire que la réalité est forcément plus complexe.
Et voilà. Et cette binarité, ils en ont ras-le-bol. Et cette binarité et le visage que leur renvoie le miroir médiatique, en quelque sorte. Et donc, de ça, ils en ont réellement ras-le-bol. Et cette honte-là, il l'adresse également aux journalistes d'une certaine manière.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors vous avez pris le temps de les rencontrer, de parler avec eux. Et quand ils peuvent tenir un langage qui va au-delà du superficiel, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Qu'est-ce qu'ils disent?
Ils sont désespérés, quoi. Désespérés. Pour la plupart. Mmh. Oui. Au bout d'un moment, il y a une sensation de vide, quoi. Une sensation de vide. Et même encore aujourd'hui, ils se raccrochent toujours à l'espoir que leur île est magnifique, qu'ils l'aiment, qu'ils l'adorent, que grandir ici, c'est une chance inouïe, et que par la beauté de la nature et par le tourisme, ils vont réussir à s'en sortir. Ils espèrent simplement que, effectivement, on parle un peu moins en mal de Lampedusa et qu'ils vont s'en sortir. Mais c'est évidemment un abattement. Et quand je vous parle de problèmes de santé mentale, je vous assure que quand vous devez au détour d'une nuit, parce que d'un seul coup ça vous tombe dessus, aller dans une barque et essayer d'attraper des Africains qui sont recouverts de fioul, qui vous glissent des mains et qui coulent à pic en vous regardant sans se débattre et qui meurent sous vos yeux, ou des gens qui sont pris de convulsions et qui meurent sans que vous ne puissiez rien faire, j'ai vécu ça avec eux il y a 10 ans, et je pense que même en ayant couvert des guerres pour France Inter il y a 15 ans, je suis désolé, j'ai pas vu plus violent que ça, quoi. J'ai pas vu plus violent que ça. Et ces gens-là, il y a personne pour les aider, il y a pas de psy, il y a rien, ils doivent se débrouiller avec ça.
Eric, on va écouter une archive, alors des propos plus froids, enfin c'est le propos du maire de Lampedusa qui témoigne dans l'émission Un jour dans le monde, version Nicolas Demorand, c'était le 14 janvier 2016.
Sur place, dans l'île, quelles sont vos infrastructures? Sont-elles suffisantes ou sont-elles totalement dépassées?
Nous avons un centre d'accueil qui a été restructuré depuis peu de temps. Il a 400 places et jusqu'en septembre, le système a très bien fonctionné. Mais maintenant, je suis un peu inquiète. Après qu'on a institué le hotspot, c'est-à-dire ce mécanisme qui devait permettre le transfert vers d'autres pays européens. Mais en fait, cela ne marche pas.
Pourquoi ça ne marche pas, ces hotspots dont on a cessé de parler et qui étaient présentés comme les avant-postes de l'action de l'Union européenne dans cette crise des réfugiés?
Non fonctionne absolument. Je donne un dato.
Non, ça ne marche pas. Je vous donne quelques données.
Dalla sua istituzione dal mese di
settembre. Eh bien, depuis septembre que cela a été institué, nous avons pu transférer vers des pays européens depuis Lampedusa seulement 190 et la Grèce 82. Alors que le quota prévoit 40 000 personnes.
Eric Valmir, après avoir écouté ce qu'on a écouté, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est assez solidaire de l'Italie, pour le coup, au-delà de Lampedusa, de l'Italie face à cette crise des migrants?
Non, l'Italie doit se débrouiller seule, c'est pas une nouveauté, c'est l'Italie qui avait lancé l'opération Mare Nostrum sous la présidence d'Enrico Letta. Oui. C'est l'Italie qui a dû le financer, c'est la seule année où on a obtenu des résultats probants, mais ça coûtait quand même très cher, je voudrais plus dire de bêtises, je crois, 9 millions d'euros je vais dire des bêtises, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Donc en tout cas, ça coûtait trop cher pour que l'Italie le supporte tout seul, et ils ont donc décidé d'abandonner. Et 3 mois après avoir abandonné, le cercle infernal des naufrages a recommencé. Donc oui, et quand je dis que Lampedusa, les habitants ont honte, c'est qu'ils ont honte aussi du théâtre dont ils sont les victimes. C'est-à-dire que vous avez, quand on veut communiquer sur l'immigration et qu'on veut annoncer de belles mesures, eh bien on vient les annoncer à Lampedusa. C'est formidable. Barroso l'a fait, ouais. Matteo Renzi l'a fait, le pape l'a fait quand même quelque part, Mattarella l'a fait. Donc qui veut fustiger l'Europe ou qui veut au contraire au nom de l'Europe énoncer de grands principes, on vient à Lampedusa, on fait sa déclaration sous 50 caméras et hop, on repart le soir. Et les habitants sont à la fois protagonistes et spectateurs passifs de ce spectacle et de ce cirque médiatique. Mmh.
L'Italie a été très longtemps un pays d'émigration, hein, tout au long du XXe siècle. On le sait bien en France, la diaspora italienne est importante en France. Ce pays est en train de devenir un pays d'immigration. Est-ce que ça change la donne italienne dans sa culture, dans ses fondements?
Ça, c'est vraiment une grande question contemporaine qui taraude l'Italie, parce que finalement, on peut dire qu'ils peuvent avoir du mal avec ça et non à la fois. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Mmh. La première grande vague qui a été terrible, c'était au lendemain de la chute du mur de Berlin, les boat people, parce qu'on a eu les boat people qui venaient d'Albanie, mmh. qui ont complètement déferlé sur les Pouilles. Et on pensait qu'après cet épisode, qui finalement, on a vu des Albanais partout, des colonnes de réfugiés dans les Pouilles, on a vu des actes racistes de la part d'Italiens qui ne voulaient pas en entendre parler, et aujourd'hui la communauté albanaise est la première intégrée en Italie, avec des postes clés dans l'économie, avec aucun problème, alors qu'il y avait des sentiments anti-albanais. On pensait que, au moment des révolutions arabes, on se doutait que les sud de l'Italie, au printemps arabe de Tunisiens, Égyptiens, allaient envoyer des hordes de réfugiés en mer, et ça a été le cas. On pensait que l'Italie allait se souvenir des débuts des années 90. Ça n'a pas été le cas. Donc, il a fallu encore une fois, comme souvent en Italie, aborder ça sous des sentiments d'urgence, avec des opérations et puis des sentiments très disparates. Il n'y a pas une politique en soi qui est menée. On a l'impression que d'un côté, c'est totalement fermé, mais de l'autre, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population immigrée alimente la main-d'œuvre italienne, de l'économie italienne, car il ne faut pas oublier que c'est un des pays où le taux de natalité est le plus faible en Europe.
Oui,
et donc, il n'y a pas de main-d'œuvre, il y a des boulots que les Italiens refusent, main-d'œuvre agricole pour beaucoup, et là, c'est quand même 3 millions de migrants, ou d'immigrés plus exactement, pas forcément en situation régulière, qui composent cette force de frappe de la main-d'œuvre agricole italienne. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, et c'est pas évident de trouver une cohérence et une cohésion à cette question-là.
En tout cas, le cinéma italien très contemporain s'est beaucoup penché sur, et se penche beaucoup sur cette thématique-là. C'est un des thèmes les plus importants du cinéma italien en ce moment, le cinéma dit réaliste. Alors, face à un problème humain qui paraît tellement inextricable, comme d'habitude, hein, la société civile joue un rôle important. Je pense en l'occurrence au travail de l'association SOS Méditerranée, son bateau à Aquarius. C'est un travail efficace, hein?
Oui, mais qui est même salutaire. Mais ce qui est incroyable, et j'en reviens à ce que... Encore à l'objet du roman, de ces habitants de Lampedusa qui se sentent totalement abandonnés et isolés, c'est que ça vient de la société civile. C'est tout comme les habitants de Lampedusa qui ont dû se débrouiller eux-mêmes avec ce drame-là et venir en aide, ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas d'accord pour venir en aide aux migrants, a dû se retrousser les manches pour accueillir, guider, accompagner, parce qu'il ne faut pas oublier que Lampedusa n'est pas une terre d'arrivée, mais un point relais, quoi, une étape pour aller un peu plus au nord et gagner l'Europe. Donc évidemment,
Ventimiglia notamment, voilà, pour ce qui concerne la France.
SOS Méditerranée et l'Aquarius, c'est le même principe, c'est la prise de conscience de la société civile, parce que la volonté politique ne suit pas.
Alors je rappelle, évidemment, Eric, le sujet dont nous parlons est malheureusement complètement d'actualité, puisque le naufrage de l'embarcation partie de Libye vers l'Europe a bien causé la mort d'au moins 10 migrants en Méditerranée le week-end dernier, selon le dernier bilan transmis hier. Plus d'une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles de jeunes enfants, sont toujours portées disparues. Voilà, un premier cadeau est parti de Garabulli, à 50 km à l'est de Tripoli, dans la nuit de vendredi à samedi. C'est au bout de 8 ou 9 heures qu'il a commencé à se dégonfler et à prendre l'eau. Dans la panique, beaucoup de personnes sont tombées à l'eau, tandis que d'autres ont attendu les secours, accrochés à ce qu'il restait du canot, avec les cadavres de leurs proches flottant autour. C'est macabre ce que je dis, mais c'est la réalité, il faut la rappeler.
D'un mot, Fabrice, avant il y avait des chalutiers classiques qui partaient. Aujourd'hui, les bateaux, les migrants les font avec les passeurs sur la plage. Ils prennent des bouées qu'ils gonflent, ils mettent des planches, ils les clouent et hop, et l'embarcation ne peut pas tenir 10 heures.
On va écouter une toute dernière archive. Gérard Collomb, ministre français de l'Intérieur, qui le 18 décembre dernier s'expliquait sur la politique d'immigration de ce gouvernement-là.
On voit bien aujourd'hui en France, nous avons 95 000 demandes d'asile par an. Ça veut dire une grande ville chaque année. Si évidemment nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas accueillir dans de bonnes conditions. Et donc nous avons décidé de pouvoir accueillir celles et ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre, qui sont prisonniers politiques, mais en même temps d'essayer de mener une politique qui permette que les migrations économiques soient gérées de manière autre. Si vous voulez, lorsque, par exemple, à la frontière italienne, Il arrive 50 000 personnes par an. Est-ce que j'accueille tout le monde? Vous voyez, en Allemagne, il y a eu 300 000 déboutés du droit d'asile qui essayent de venir en France. Est-ce qu'on accueille tout le monde? Non, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, c'est tout simplement la raison qui nous guide et nous allons le faire de façon très humaine.
Bon, c'est toujours les mêmes discours, hein, finalement. On peut pas accueillir tout le monde, mais on va faire pour le mieux de façon humaine, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Oui, mais c'est compliqué. Enfin, hein. Je me suis déjà malheureusement énervé. Il était pour rien, le pauvre, avec Yannick Jadot sur cette antenne. Mais parce que les députés européens ne me semblent pas donner la mesure. On a l'impression que c'est un show politique électoral dans tous les pays. Or, c'est un problème trop grave pour qu'on joue avec les électeurs et qu'on joue avec de la politique politicienne. Il faut réellement trouver des solutions et des politiques alternatives. Et j'espère qu'elles seront trouvées dans les années qui viennent.
Ce sera le mot de la fin, Éric Welmire. Je rappelle le titre de votre livre, Pêcheur d'hommes. Alors c'est un roman très ancré dans la réalité, on l'a dit, publié chez Robert Laffont. Et puis les auditeurs peuvent lire aussi l'interview de vous dans un magazine bimensuel, novembre-décembre, qui s'appelle Radici. La moitié est écrite en gros hein, en italien, l'autre en français.
Oui,
si vous êtes italophile, elle est formidable, celle-là. Radici, ça veut dire racine, je crois.
Oui,
Radici.
C'est ça.
Merci Éric, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Évidemment, demain, nous évoquerons les inondations de Vaison-la-Romaine en 1992.